concis possible, le plus bref et condensé possible, parce que nous avons une matinée exceptionnelle avec l'Assemblée générale. Deux Chroniques, chapitre 34, les sept premiers versets. On peut commencer par ce texte qui nous présente un roi de Juda, nommé Josias. C'est un nom qui a la même racine que Joseph, Josep. C'est un nom qui contient en fait deux notions apparemment contradictoires. Dieu a ajouté et en même temps Dieu a retranché. Et c'est plein d'enseignements pour nous. Eh bien, ce roi, Josias, avait 8 ans lorsqu'il devint roi et régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. On renversa devant lui les autels des Baals et il abattit les statues consacrées au soleil qui était dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en fonte et les réduisit en poussière. Et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Et il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, partout au milieu de leurs ruines, il renversa les autels, il mit en pièces les idoles et les images taillées et les réduisit en poussière et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. On va au verset 14 et on continue notre lecture. Au verset 14, je vais vous le lire parce que j'ai oublié de l'insérer. Excusez-moi l'équipe, là ils ont eu un moment de solitude. Je vous le lis simplement. Hein. « Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Hilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Alors Hilkija prit la parole et dit à Shaphan le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Hilkija donna le livre à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte en disant « Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été commandé. Ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. » Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi « Le sacrificateur Hilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Et il y a tout un récit qui montre le bouleversement du cœur de ce roi Josias. On lit au chapitre 35 et au premier verset. « Josias célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem et l'on immola la Pâque le 14e jour du premier mois. Il établit les sacrificateurs dans leurs fonctions, les encouragea au service de la maison de l'Éternel. Il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel, « Placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâti Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule. Servez maintenant l'Éternel, votre Dieu, et son peuple d'Israël. Tenez-vous prêts. Selon vos maisons paternelles, selon vos divisions, comme l'ont réglé par écrit David, roi d'Israël, et Salomon, son fils. Occupez vos places dans le sanctuaire, d'après les différentes maisons paternelles de vos frères, les fils du peuple, et d'après la classification des maisons paternelles des Lévites, immolez la Pâque, sanctifiez-vous et préparez-la pour vos frères en vous conformant à la parole de l'Éternel prononcée par Moïse. Et pour terminer, le verset 10 qui sera l'axe central de ce message, le service s'organisa et les sacrificateurs et les lévites occupèrent leur place selon leur division d'après l'ordre du roi. Amen. On va prendre quelques minutes ce matin, frères et sœurs, pour réfléchir sur ce témoignage très fort de ce verset 10 que j'aimerais mettre en lumière en particulier ce matin. Le service s'organisa et les sacrificateurs et les lévites occupèrent leur place selon leur division d'après l'ordre du roi. J'aimerais que nous puissions reconsidérer ce matin que notre Dieu est un Dieu lui-même organisé, que tout ce qu'il pense est organisé, que tous les plans qu'il établit sont organisés, parfaitement cohérents, que tout ce qu'il fait est harmonieux, qu'il n'y a aucun bug, aucun dysfonctionnement. La Bible nous dit tout ce que Dieu fait est parfait et dure toujours et il n'y a rien à y ajouter. Son royaume est organisé avec une sagesse que la Bible qualifie d'infiniment variée et cette harmonieuse organisation se retrouve dans sa création, dans sa créature qu'est l'homme. Dieu a créé Adam et Ève avec une harmonie, un fonctionnement absolument parfait jusqu'à ce que le péché ait engendré une désorganisation. Une désorganisation à tout niveau, une désorganisation pour commencer dans la relation de l'homme avec Dieu. Le péché a provoqué une rupture immédiate dans cette relation précieuse et intime dont jouissaient Adam et Ève. Tous les soirs, l'Éternel visitait sa création et s'entretenait avec Adam et Ève. J'essaie d'imaginer la beauté et la densité de ces moments privilégiés. Et voici que le péché a tourneboulé cette harmonie, chamboulé cette relation. Le péché a désorganisé la vie intérieure de l'être humain. C'est ainsi que la Bible nous parle d'angoisse. Ça n'existait pas. D'inquiétude, de trouble. L'Église première, dans sa prière, va dire « Pourquoi ce tumulte parmi les nations ? Pourquoi ces pensées vaines parmi les peuples ?» Dans leur prière, ils vont faire un descriptif de l'humanité, des hommes de pouvoir qui se liguent, qui se révoltent. À cause du péché, l'homme et donc l'humanité et donc la société a basculé dans une désorganisation, dans la confusion, dans un désordre indescriptible. Alors bien sûr, les psychologues dont nous reconnaissons les vertus et les compétences ont établi comme une sorte de dictionnaire pour dépeindre, pour désigner, définir. On parle de complexes, on parle de pulsions, on parle de frustration, on parle d'atavisme psychologique. Il y a tout un vocabulaire pour exprimer cette désorganisation à l'intérieur de l'être humain. Quelqu'un peut-être ce matin, en écoutant ces quelques paroles d'introduction, se retrouve d'une certaine manière dans ce portrait. Tu te sens peut-être toi-même, à l'intérieur de toi, désorganisé. Des pensées qui s'agitent en toi, que tu as du mal à contrôler, à ordonner. Des sentiments incontrôlables. Des rancœurs, des aigreurs, des obsessions, des souvenirs qui rebondissent cycliquement dans ta mémoire. Il y a peut-être dans ton être intérieur des incompréhensions, des pourquoi, peut-être même des révoltes. Il y a une désorganisation. Eh bien, voyez-vous, Dieu relève le défi de réorganiser ce que le péché a désorganisé. Amen. Et alors que tous nos experts cherchent éperdument une solution pour renverser cette mécanique destructrice qui entraîne la société dans le chaos, eh bien, la Bible fait entendre un message. Elle donne la solution. D'ailleurs, chaque fois, et j'en parlais tout à l'heure avec émotion, que l'on écoute le témoignage d'une conversion, on est devant une preuve de plus que Dieu a le pouvoir de réorganiser, de remettre en état, de remettre en cohérence et en harmonie un être qui, dans le passé, a vécu dans le péché, subi des traumatismes, des échecs, des épreuves multiples. Ce matin, je prie pour qu'en commençant dans ma vie, dans ta vie, Dieu effectue une œuvre de réorganisation. Quelles sont belles ces paroles que Jésus adresse souvent en début de discours. Que la paix soit avec vous. Une parole qui va déverser une influence d'apaisement. Rassurez-vous, ne craignez point, c'est moi. Pourtant la tempête siffle encore. Ces paroles de Jésus descendent dans le cœur des disciples éperdus et réorganisent en eux les sentiments, les émotions, les pensées, afin que, parce que ça commence toujours par là, à l'intérieur de chacun, l'ordre de Dieu, l'harmonie de Dieu reprennent tous ses droits et toute la place. Amen. Et Dieu relève ce défi. Et la solution qu'il nous révèle est très clairement explicitée. Le facteur de désorganisation étant le péché, avec son influence, sa loi morale, spirituelle, eh bien la Bible nous dit « quiconque est né de Dieu ne pèche plus. » Et le même apôtre Jean dit « quiconque est né de Dieu ne pratique plus le péché. » Un miracle s'est produit suite à la nouvelle naissance, parce que se convertir à l'évangile, ce n'est pas une adhésion idéologique, intellectuelle, philosophique, que sais-je. Non, non, se convertir à Jésus-Christ, c'est vivre une expérience personnelle absolument radicale, fondamentale. Je nais de nouveau. Le chrétien n'est pas un pécheur amélioré, avec 3-4 rustines et 2 pansements. Non, le chrétien, c'est un pécheur qui meurt et ressuscite, il naît de nouveau, une nouvelle création, que le Seigneur soit béni. Alors, quiconque est né de Dieu, vous voyez, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la vraie solution pour que tu entres dans l'abondance de la vie de Dieu, de la bénédiction qu'il a pour toi, c'est que tu naisses de nouveau. Nais de nouveau. Comment ? Viens à ses pieds, reconnais tes péchés, demande-lui grâce, secours, bonté, appelle-le, invoque-le, il va se révéler à ton cœur et tu vas te retrouver au terme de cette rencontre, transformé, changé, né de nouveau. Amen. Parce que ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Que le Seigneur nous donne de saisir cette réalité. Que Dieu soit béni. Je vais revenir tout à l'heure sur le verset 10, le service s'organisa. Mais avant cela, on va prendre 2 minutes pour faire un peu plus connaissance avec ce roi Josias. 8 ans, et il se retrouve roi de Juda. À 8 ans, il n'avait accompli aucune œuvre. Il n'avait encore démontré aucune compétence, aucune capacité. Il avait 8 ans. Mais le voici en situation de règne. Moi, j'y vois quelque chose de la grâce de Dieu. Nous sommes, nous aussi, appelés à régner par la grâce. Ça n'est pas les preuve de nos compétences, parce qu'on a beau les chercher, on ne va pas en trouver beaucoup. Ça n'est pas par nos efforts, ça n'est pas par nos mérites, ça n'est pas par notre CV et la démonstration de nos capacités, de caractère. Non, 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 c'est par grâce. C'est par grâce. Tu es appelé à régner par grâce. Par grâce. Et à 8 ans, Josias se trouve dans la situation de règne. Il est là sur le trône, mais cette position qu'il reçoit, je dirais, par grâce, il en est le responsable quand même. Quelques années passent. Et à l'âge de 16 ans, alors il prend conscience d'une nécessité incontournable. Il lui faut chercher Dieu. À l'âge de 16 ans, donc, eh bien, il commence à rechercher le Dieu de David, son père. Il prend du temps, il se met en prière, il invoque l'Éternel. Il lui dit, en substance, j'imagine, « J'ai entendu parler de toi par une transmission générationnel, j'ai entendu parler de toi, mais je ne te connais pas encore et j'aimerais te connaître. » Et mes frères et mes sœurs, cet exemple m'amène à rappeler l'importance que nous connaissions le Seigneur d'une manière personnelle, que nous ayons une foi personnelle, une intimité personnelle, nourrie, mature, authentique, inconditionnel, dans les jours faciles, comme au sein des tempêtes furieuses, chercher Dieu, se tenir en prière, garder les yeux fixés sur lui, s'attendre à son secours, rechercher Dieu, et vous le savez, Dieu a promis de se laisser trouver. Amen. Quand on le cherche, eh ben on le trouve, hein. Alléluia, hein. Et voyez-vous, cette recherche de Dieu a construit cet adolescent. Ça a construit son être intérieur. Sa foi a pris corps. Sa foi a pris de la substance, j'allais dire de l'épaisseur. Parce qu'on peut avoir 16 ans et avoir une foi consistante, hein. Amen, hein. On peut être jeune et malgré tout savoir en qui nous croyons. Savoir que l'évangile de Jésus, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Savoir que Dieu est vivant. Il ne faut pas penser qu'il est nécessaire de traverser plusieurs décennies, mais à 16 ans, il se met à chercher Dieu, il trouve le Seigneur, ça le construit, ça le mûrit, ça l'éclaire de la lumière d'en haut. Quatre ans après, il passe à l'action. 20 ans. Il a 20 ans, il passe à l'action et en priorité, il a compris qu'il ne pourra pas aller très très loin si l'état présent ne change pas profondément. Le pays est dans un chaos incroyable. Je parlais de la désorganisation provoquée par le péché. C'est une illustration dans le pays, mais il y avait un chaos, une confusion. Il y avait des autels, des stèles, des monuments en dévotion au soleil et à toutes sortes de Baal et de divinités païennes. C'était le désordre. Mais Dieu relève le défi de réorganiser là où le péché a désorganisé. Je me souviens du témoignage de ce chrétien qui nous disait « Lorsque j'étais au service militaire, j'étais responsable du stock. » Et bien sûr, je me suis fait mon stock personnel. Si bien qu'au terme des 12 mois de service, mon garage était plein de treillis neufs, de renverses neuves, des ceintures militaires neuves. J'avais un stock incroyable. Et puis, je rentre et je mène ma vie et j'entends l'évangile. Je rencontre Jésus, je nais de nouveau et Dieu me dit, il faut réparer. Il faut purifier le pays. Il faut mettre de l'ordre dans ta vie. Et notamment, tu remplis ton coffre de tout le stock que tu as volé à l'armée. Tu fais la longue distance, tu prends rendez-vous avec le chef de régiment et tu lui expliques ta conversion et tu restitues ce que tu as volé. Le garçon remplit sa voiture de tous ses larcins. Il monte, il rencontre le colonel et il dit « Mon colonel, en telle année, j'étais dans votre régiment affecté à la responsabilité du stock et j'ai volé l'armée. Entre-temps, j'ai entendu l'évangile, ma vie a changé, Dieu me dit qu'il faut réparer. Alors je viens vous rendre tout ce que je vous ai volé. » Le colonel, il a perdu ses galons. C'est la première fois qu'il entendait quelque chose comme ça. Oui, parce que ce que Dieu fait, c'est miraculeux. Et il y a dans le cœur de ce jeune homme de 20 ans une prise de conscience, une urgence. Il faut purifier le pays. Et peut-être y a-t-il dans ta vie des choses qu'il faut éliminer, non pas pour, obéir durement à une contrainte religieuse, pas du tout. Non, 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 c'est pour ton propre bonheur que tu as besoin certainement de supprimer certaines choses, des pratiques, peut-être de mettre un terme à certaines fréquentations qui sont nuisibles, nocives, toxiques, et dans le seul but de ton propre bonheur. Il y a des choses que Josias a ordonné qu'on fasse disparaître sans aucune sorte de sentimentalité. On a purifié le pays, on a purifié le pays et à l'âge de 26 ans, alors que le pays est pur maintenant, alors quand on a supprimé, le moment est venu pour reconstruire. Alors il répare. Il répare la maison de Dieu, ce qui nous laisse comprendre que la maison de Dieu avait été négligée. Il répare la maison de Dieu et en faisant ces actes de réparation, eh bien, le sacrificateur trouve le livre que Moïse avait laissé. Où est votre Bible? J'espère qu'elle n'est pas dans une caisse... Dans la cave ou dans le vide sanitaire de votre maison. La loi de Dieu que Moïse avait laissée comme un précieux héritage était enfouie dans un fratras d'objets discordants et désordonnés. Et en faisant le ménage, on redécouvre la parole de Dieu. Et peut-être quelqu'un a besoin de redécouvrir la parole de Dieu. Je t'encourage de tout mon cœur. Redécouvre la parole de Dieu. En redécouvrant ses trésors, tu vas devenir passionné de la Bible. Amen. Tu vas te nourrir. Tu vas assimiler la parole de Dieu. Tu vas la considérer comme un élément essentiel de ton quotidien. J'ai besoin, nous avons besoin, je crois que l'Église des temps contemporains a besoin de redécouvrir la parole de Dieu. Amen. Et de ne pas avoir l'illusion de connaître la Bible. Parce que vous savez, c'est facile aujourd'hui. Vous prenez votre souris, là, comme ça, et vous allez, vous surfez sur des tas de sites qui se disent chrétiens, et ça vous donne l'illusion, vous voyez, vous faites comme un écrémage superficiel, et ça vous donne l'illusion que vous connaissez la parole de Dieu. Mais l'enfant de Dieu ne se nourrira pas d'illusions, mais d'une authentique relation avec sa Bible. Amen. Où est ta Bible ? Je me souviens un samedi, à midi, avec quelques frères ouvriers, on était en plein chantier, là c'était à Annecy, et on avait un petit couple qui nous préparait le manger. Donc on arrive chez eux, et je remarque à l'entrée, vous savez, l'éphéméride, le calendrier de Viens et Vois, que je vous conseille à tous. Hein, et je dis à mon frère à côté, Georges, regardez, ça fait une semaine qu'ils n'ont pas lu leur feuillet, parce qu'il y avait, vous voyez, je voyais la date, ça faisait une semaine qu'ils n'ont pas lu leur feuille, là. Et Georges me dit, frère, vous avez vu l'année? Ça faisait un an et une semaine, en fait, qu'ils n'avaient pas touché le feuillet. Bon, c'est anecdotique, mais quand même, ça nous parle sur l'intérêt passionnel ou non que nous portons à la parole de Dieu. En tout cas, quand le roi a entendu cela, nous avons retrouvé le livre de Dieu. Oh, Josias a dit au secrétaire, lis-moi, je veux l'entendre. Et Shaphan a lu le contenu de la parole de Dieu. Ça a bouleversé le cœur de Josias. Il a déchiré ses vêtements, mais la suite montre qu'il a été bouleversé, il s'est humilié devant le Seigneur pour sa négligence et la négligence des personnalités qui l'avaient précédé historiquement. Il s'est humilié et vous savez quoi ? Dieu lui a parlé parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ses paroles. Eh bien, voici, j'ai entendu. Tu as pleuré devant moi, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix. Dieu va parler et va tenir un discours porteur d'espérance et de restauration, que le Seigneur soit béni. Alors si quelqu'un se retrouve dans cet aspect des choses, la nécessité de retrouver ta Bible et d'avoir à nouveau la relation d'amour que tu avais jadis pour la parole de Dieu, reviens à cela. Et dans cette 26e année de réparation de la maison de Dieu, de redécouverte du livre de Dieu, alors Josias va progresser, et il va célébrer la Pâque, chose qui n'avait pas été faite depuis trop longtemps. Il va remettre, on pourrait dire, Jésus-Christ sacrifié et ressuscité au centre de la foi. Et puis c'est là que intervient ce fameux verset 10. Le verset 10, le service s'organisa. Dieu n'est pas contre l'organisation, bien au contraire, je l'ai dit en introduction, il est un Dieu organisé. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, écrit Paul aux Corinthiens, et le Seigneur veut organiser. Tout à l'heure, dans mon intervention de rapport moral, je reviendrai sur un aspect plus pratique, plus concret, qui concerne toutes les églises. Rassurez-vous, ce ne sera pas l'église d'Aubagne uniquement qui sera concernée par ce que je vous ai préparé, mais c'est le défi de chaque église locale. Toutes celles où j'ai servi ont confirmé cela. On constate qu'il y a un défi permanent, avec la grâce de Dieu, on y travaille, de maintenir l'église dans un état d'harmonie, d'unité véritable, de cohérence et de cohésion, une église organisée. Le Saint-Esprit n'est pas contre le fait d'organiser harmonieusement pour que le Seigneur soit glorifié. Alors j'aimerais terminer mon propos ici, mon frère, ma sœur, peut-être dans cette prière de conclusion, un temps favorable te sera accordé pour dire au Seigneur, mon Dieu, ce que le péché a réussi à désorganiser dans telle ou telle partie de ma vie personnelle, réorganise-le ce matin. Remets les choses en état. Tu vois l'inquiétude, tu vois la peur panique, tu vois mes émotions que j'ai du mal à apaiser, tu vois les incompréhensions que j'ai sur telle ou telle circonstance. Je ne comprends pas, j'accepte pas, et il y a en moi des raideurs, Seigneur, et je ne veux pas qu'elles subsistent plus longtemps, mais j'aimerais que ce matin, sous l'effet de ta parole et l'action de ton Saint-Esprit, tu remettes de l'harmonie au fond de mon cœur. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait s'incliner quelques instants avant de laisser la place à l'Assemblée générale et demander